Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire.
Épisode 2, où et comment densifier l'habitat en grande couronne, la controverse autour du zéro artificialisation nette. Bonjour, je suis Guillaume Lacroix, animateur de la chaire Aménager le Grand Paris à l'École d'urbanisme de Paris. Une chaire, historiquement, c'est un espace de partage du savoir d'un professeur. Et justement, la mission principale de notre chaire, c'est d'animer des échanges entre des universitaires et étudiants et un réseau d'entreprises impliquées dans l'aménagement de la métropole parisienne. Dans cette deuxième série proposée par la chaire, nous allons parler de la production de logements en Île-de-France et plus particulièrement en Grande Couronne, c'est-à-dire dans les quatre départements les plus éloignés de Paris. Saviez-vous déjà que sur une région de 12 millions d'habitants, plus de la moitié réside dans cette Grande Couronne? Et justement, l'accueil de nouveaux habitants dans ces territoires est au cœur de politiques publiques qui peuvent être en tension. L'objectif actuel de zéro artificialisation nette vise en effet à stopper la bétonisation des terres agricoles et des espaces naturels. Alors, on peut se demander, comment construire pour accueillir autant d'habitants, tout en limitant l'impact sur l'environnement? Une autre question se pose, comment densifier l'habitat tout en préservant la qualité de vie et l'accès aux services dans les plus petits villages de la région? C'est tout l'objet de notre série, la densification résidentielle en Grande Couronne, Mission Impossible. Le premier épisode nous a permis de planter le décor. On a vu, avec Jean-Claude Drian et Claire Arago, professeurs à l'École d'urbanisme de Paris, les tensions historiques autour de la production de logements en Grande Couronne, et plus particulièrement de logements collectifs, c'est-à-dire d'immeubles. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la controverse autour de l'objectif zéro artificialisation nette, ou ZAN. Celui-ci a été inscrit dans la loi Climat et Résilience de 2021 et suscite de nombreux débats chez les acteurs politiques et de la construction de logements. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Aurélie Landon, chercheuse post-doctorante à la chaire Aménager le Grand Paris. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Pour démarrer, de quoi parle-t-on? Pourriez-vous nous définir le ZAN?
Oui, alors le ZAN, c'est un objectif qui vise à arriver en 2050 à une artificialisation nette des sols de zéro. Donc ce qu'on appelle artificialiser, c'est souvent, on parle souvent dans le langage courant de bétoniser, donc construire sur des espaces agricoles ou naturels ou forestiers. Et l'objectif du ZAN, ça veut dire concrètement que pour construire, soit il va falloir faire sur de l'existant, soit il va falloir compenser cette artificialisation. Et pour compenser, il faut réussir à renaturer un autre espace. Donc, pour donner un exemple un peu caricatural, ça peut être de transformer un ancien parking en espace forestier. Et ce qui est nouveau avec cet objectif ZAN, c'est que il a été introduit dans la loi Climat et Résilience qui a adopté tout un tas d'instruments contraignants. Et ça, c'est un grand changement puisque jusqu'ici, on n'avait que des instruments incitatifs.
D'accord. Est-ce que vous pourriez revenir sur les étapes qui ont conduit à l'adoption de cet objectif?
Oui. Alors, en fait, ça s'est passé un peu comme pour le changement climatique, c'est-à-dire que c'est des questions qui ont d'abord été portées dans les milieux scientifiques et d'expertise. Alors, sur ces questions de la biodiversité, c'est l'IBES, donc, qui est une sorte d'équivalent du GIEC, mais sur la biodiversité. Donc, c'est un groupe de scientifiques et de politiques qui font référence sur le sujet. Et ils ont montré que l'artificialisation des sols, ça constitue une des principales causes d'érosion de la biodiversité. Du coup, pour réduire cette artificialisation, il y a d'abord eu des engagements européens dès 2011, puis internationaux en 2015 avec la COP21. Et puis en France, il y a eu le lancement d'une réflexion nationale en 2018 qui a été portée par le ministre de l'Environnement de l'époque, Nicolas Hulot. Donc ça aboutit à un plan biodiversité adopté par le gouvernement et c'est la première fois qu'on mentionnait cet objectif ZAN. Et puis maintenant, il a été introduit dans la loi Climat et Résilience qui a été adoptée en 2021.
Merci Aurélie. Pour comprendre les débats actuels autour du ZAN, vous avez travaillé à partir d'une revue de presse pour analyser les prises de position des acteurs institutionnels, les collectivités territoriales, les ministres, les parlementaires, ainsi que les acteurs du secteur de la construction. L'objectif était de comprendre les différentes dimensions de ce débat que vous allez nous expliquer après. Mais si on parle d'artificialisation nette, est-ce que ça veut dire que certains territoires pourraient être autorisés à continuer artificialiser les sols, tandis que d'autres non. Avec ce terme net, comment décider où l'artificialisation et la renaturation auront lieu ?
Oui, c'est le premier point en fait de cette controverse. Ce qui a été décidé pour le gouvernement, c'était de répartir des droits artificialisés et que ça devait être fait de manière descendante en cascade. Donc d'abord dans les documents de planification à un niveau régional, puis infrarégional, intercommunal, etc. On descend. Mais ils n'ont pas tranché sur comment on répartit ces droits artificialisés entre les différentes communes. Et là-dessus, il y a une ancienne étudiante de l'école d'urbanisme de Paris, Marie-Clarisse Aoumesser, qui a fait un mémoire et qui a montré qu'il y avait un peu quatre manières possibles de se répartir ces droits. Il y a une première façon qui serait de décider qu'on se les répartit de manière égalitaire. Toutes les communes ont à peu près le même quota, donc c'est évidemment plus facile à négocier, mais c'est pas forcément la solution la plus équitable. Il y a une deuxième manière de faire qui est en discussion, qui serait d'accorder des enveloppes foncières plus importantes aux territoires qui étaient les plus vertueux, donc qui artificialisaient déjà peu, puisqu'on a beaucoup de maires qui s'inquiètent d'être pénalisés, d'avoir été déjà économes en utilisation des sols. Donc voilà, ça c'est une deuxième façon. Il y a une troisième façon qui serait de réfléchir sur l'efficacité en quelque sorte de l'artificialisation. Donc c'est une réflexion qualitative. En gros, si on artificialise pour un équipement public ou pour créer de l'emploi par exemple, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'artificialiser ? Est-ce que du coup on peut avoir une enveloppe plus importante ? Et puis, il y a une quatrième manière de réfléchir qui serait de se baser sur des projections démographiques pour pas bloquer le développement des communes, ce qui est une grande crainte de beaucoup de maires. Le problème qu'on a pour cette solution, c'est que les projections démographiques, on sait qu'elles ne sont pas fiables à une échelle infradépartementale.
Et est-ce que finalement le gouvernement a choisi une de ces stratégies que vous venez de présenter ?
Et non, justement, ils ont décidé en janvier 2022 que cela devait être déterminé dans des documents de planification infrarégionaux, donc qu'on appelle les SCOT, et qu'ils devaient élaborer des propositions à soumettre aux régions. Et les régions auront ensuite jusqu'en début 2024 pour les intégrer dans les documents de planification. Sauf que les acteurs qui réalisent ces documents, donc les SCOT, ils se sont réunis lors de ce qu'on appelle la conférence des SCOT qui s'est tenue en octobre 2022. Et ils ont uniquement proposé des indicateurs qualitatifs. Ils n'ont pas fixé de répartition de ces droits artificialisés chiffrés, puisqu'ils estiment que c'est aux régions de le faire. Donc le débat reste ouvert sur la manière de répartir ces droits.
Oui, nous y reviendrons notamment dans l'épisode suivant. On voit que ces sujets sont pleinement d'actualité en 2022 et que les modalités sont probablement amenées à évoluer rapidement, peut-être même avant l'apparition de ce podcast. Donc aujourd'hui, début décembre 2022, comment est définie cette notion d'artificialisation dans la loi ? Et pourquoi cette définition fait-elle l'objet de débats finalement ?
Oui, c'est le deuxième point de la controverse et c'est un des points centraux du débat chez les élus. En fait, il y a une nomenclature qui est sortie dans des décrets en avril 2022 qui dit ce qui est considéré comme artificiel ou non artificiel. Et donc, ce qui est artificiel, c'est les surfaces dont les sols sont imperméabilisés, donc que ce soit partiellement ou totalement, mais aussi, et c'est ça qui fait beaucoup débat, les surfaces végétales dites non ligneuses, c'est-à-dire sans arbres. Donc, ça veut dire que sont inclus dans ce qui est considéré comme artificiel tout ce qui est surface végétale urbaine, comme des parcs municipaux ou des terrains de sport, mais aussi des jardins individuels privés, du moment qu'il n'y a pas d'arbres sur ces espaces. Donc c'est une définition qui suscite beaucoup de débats et dont s'est saisie l'Association des maires de France, qui est soutenue aussi par un certain nombre de sénateurs. Et leurs arguments, et on revient à ce qu'on disait dans la question précédente, sont qu'on devrait réfléchir à une de manière qualitative à l'artificialisation.
Comme quoi, par exemple ?
Eh bien, par exemple, sur les surfaces végétales, on peut se demander si une surface agricole qui est polluée par des pesticides, par exemple, est-ce que c'est plus vertueux de la considérer comme naturelle et non artificielle ? par rapport à un jardin qui certes sera sans arbres, mais qui ne contiendra pas de terre polluée. Et du coup, c'est sur ces réflexions que l'Association des maires de France a saisi en juin, donc là c'est quelque chose qui est encore en cours, le Conseil d'État pour demander une réécriture de ces décrets et sur toute cette fameuse nomenclature. Peut-être juste donc les dernières actualités, parce que c'est quelque chose qui a amené à évoluer, mais en juillet, donc Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, il s'est engagé à faire évoluer ces décrets. Et puis on a Elisabeth Borne qui très récemment, donc en fin novembre 2022, au dernier congrès de l'Association des maires de France, qui s'est également engagée à faire évoluer ces décrets. Et elle a notamment annoncé qu'on pourrait réfléchir à exempter certains projets du décompte du ZAN. Donc par exemple des projets d'envergure nationale, comme de la liaison ferroviaire, de l'extension de ports, etc. Ils pourraient être exemptés et ne pas être décomptés dans le ZAN. Peut-être un petit dernier point au-delà de cette question sur la définition de l'artificialisation. Il y a un autre débat qui est porté cette fois-ci par les écologues sur ce que serait la renaturation pour compenser l'artificialisation. Puisque c'est le mécanisme qui est prévu dans la loi, et ça pose vraiment question de est-ce qu'on peut vraiment renaturer, est-ce qu'on peut vraiment recréer des écosystèmes de manière presque artificielle, justement.
Alors merci, on a compris que ces éléments de calendrier politique et réglementaire ont beaucoup évolué, sont très fortement inscrits dans l'actualité, mais il reste une question quand même plus structurelle autour de cet objectif de ZAN. Est-ce que ça n'est finalement pas un débat autour du modèle de la ville dense ou du niveau de densité acceptable ?
Et oui, ça réactive un débat assez ancien qui revient régulièrement sur la densité, l'immeuble en ville, etc. Et au niveau national, moi je me suis intéressée plus particulièrement aux acteurs en grande couronne, mais ce qu'on voit c'est plusieurs éléments de rejet, des discours de rejet déjà sur la forme de l'immeuble collectif et notamment partagé entre les maires et les habitants pour préserver le caractère villageois. Et ce rejet, il s'articule à tout un discours de défense du mode de vie périurbain et de l'accès à la maison individuelle. Ça a été très bien montré par Claire Fonticelli dans son travail de thèse. Et puis, il y a un deuxième élément qui est rapporté par les acteurs de la construction et des maires, c'est la hausse des recours contre les permis de construire et des témoignages de maires, qui, y compris d'anciens maires battus aux dernières élections municipales, qui témoignent d'un rejet un peu des nouvelles constructions. Il y a vraiment une revendication d'un droit à la nature qui s'est développé encore plus fortement avec le Covid et qui s'oppose à la construction de nouveaux bâtiments et donc à la densification aussi du tissu périurbain. Et puis après, il y a un troisième point un peu plus spécifique qui peut expliquer le rejet de l'immeuble collectif, c'est qu'il est souvent associé au logement social, et dans de nombreux territoires, il y a encore des refus de la population et ou des élus d'avoir des logements sociaux sur leur commune. Ça a été étudié par Éric Charme notamment, qui parle d'un phénomène de clubisation, donc de fermeture du territoire sur lui-même. Et puis il y a aussi très récemment une thèse de Grégoire Fauconnier qui s'est intéressé à l'application de donc l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire l'article qui fixe pour les communes l'obligation de disposer d'un taux minimum de logements sociaux. Et il a montré justement tout un tas de stratégies de contournement de collectivités pour éviter la construction de nouveaux logements sociaux et donc souvent de logements collectifs.
Oui, alors pour remettre dans son contexte, il faut rappeler que depuis les années 90 et 2000, il y a un débat récurrent sur le type d'urbanisme à favoriser, du modèle de ville finalement qui en découle. D'un côté, schématiquement, on aurait les tenants de la ville dense qui veulent regrouper les habitations et les activités pour réduire les déplacements, notamment en voiture, les gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols avec les nouvelles constructions. De l'autre, il y aurait les partisans d'une ville à faible densité qui permettrait de préserver une qualité de vie, des traditions comme l'accès au jardin, la maison individuelle. Et c'est un mode de vie périurbain qui est défendu, dont Claire Arago nous parlait dans l'épisode précédent. Le débat se cristallise souvent autour de deux formes caricaturales. D'un côté, la tour de logement collectif et de l'autre côté, le logement pavillonnaire. Aurélie Landon, vous qui travaillez sur ce sujet, est-ce que ce débat au long cours prend des formes particulières dans le contexte actuel qui est marqué par une multiplication de crises ?
Et oui, c'est le quatrième point de la controverse que j'ai observé. En fait, on a les acteurs de la construction qui craignent que l'arrivée de l'objectif ZAN, conjugué à plusieurs crises, ralentisse la production de logements. Et donc, ils mettent en avant plusieurs crises concomitante, il y a déjà une crise un peu du milieu périurbain, alors avec tout le flou qui peut y avoir autour des contours de cette crise, mais dont une des manifestations était le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019.
Donc, il y a eu un premier aspect de crise. Quel est le deuxième aspect de crise?
Le deuxième aspect, c'est des difficultés dans la production et la rénovation de logements. Donc là-dessus, j'ai réalisé pour la chaire un bilan territorialisé de la production de logements en Grande Couronne. Et on voit dans la note qui a été produite, qui a été mise en ligne sur le site de la chaire, que les acteurs de la construction peinent à atteindre les objectifs de production de logements fixé par la loi du Grand Paris en 2010, et que ces difficultés à atteindre ces objectifs ont été évidemment accentuées par la crise sanitaire, avec du retard dans les autorisations de construire, etc. Donc il y a cet argument que le ZAN viendrait rajouter encore une contrainte dans une période où on est déjà en retard pour répondre aux objectifs de production de logements. Ensuite, il y a un troisième point qui avait été abordé par Jean-Claude Drian dans l'épisode précédent, qui est vraiment très conjoncturel, qui est le problème d'accès au crédit immobilier. Donc, on a une montée des taux du crédit immobilier qui crée des difficultés pour acheter du logement neuf. Et puis, on a un quatrième point qui est la crise sanitaire et les conflits en Ukraine qui entraînent à la fois des difficultés d'approvisionnement avec une hausse importante des prix des matériaux, des difficultés énergétiques, etc., qui viennent encore compliquer l'équation.
Donc on voit ici que dans cette controverse, les différents acteurs qui s'expriment sur le sujet s'appuient aussi sur des arguments conjoncturels sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans notre troisième épisode. Mais maintenant, il y a des interrogations sur les surcoûts générés par le ZAN.
Oui, ça c'est le dernier point de la controverse et c'est celui sur lequel je travaille plus particulièrement dans le cadre du programme de recherche logement à la chaire. Pour comprendre ces débats autour du coût, en fait, il faut commencer par dire qu'il y a une idée un peu communément admise que produire du collectif coûterait moins cher à produire que du logement individuel. Et en fait, dans le périurbain, cette équation n'est pas tout à fait vraie. Il y a eu plusieurs travaux là-dessus et notamment il y a eu tout un dossier coordonné par Anastasia Touati en 2015 qui montre l'inverse. En fait, c'est en général plus cher de produire du logement collectif dans le périurbain parce que déjà, les économies de gestion qui vont être faites lorsqu'on fait du collectif ne profitent pas aux constructeurs, mais profitent aux collectivités, aux exploitants de réseau, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les coûts d'une opération varient en fonction de la taille et on a en fait des effets de seuil avec des taxes, des aménagements supplémentaires, etc. à réaliser en fonction de la taille de l'opération. Donc les opérateurs ont plutôt intérêt à limiter la taille de leurs opérations pour éviter ces coûts supplémentaires. Et puis la troisième raison, c'est que les risques financiers augmentent aussi avec la taille de l'opération. Donc contrairement à ce qu'on pense souvent, ça coûte donc un petit peu plus cher de produire du collectif. Et du coup, pour couvrir ces surcoûts, il faut qu'il y ait une pression foncière suffisante pour absorber ces coûts. Et ce n'est pas le cas forcément en grande couronne. Donc, pour les acteurs de la production de logements, le ZAN il viendrait encore complexifier un équilibre financier qui est déjà fragile sur les opérations de logement dans le périurbain francilien.
Merci Aurélie, nous en parlerons ensemble dans l'épisode suivant. Nous avons vu aujourd'hui que la définition réglementaire de l'objectif ZAN est encore sujette à interprétation et que de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur la dimension technique, sur comment comptabiliser, suivre, connaître, accompagner les transformations nécessaires dans la fabrication de la ville actuelle. Il y a également une dimension politique, comment organiser la répartition des droits à artificialiser et à renaturer entre des territoires différents et des parties différentes de la population, entre territoires denses, périurbains. Il y a enfin une dimension économique. À l'heure de l'urgence économique et sociale, comment financer les surcoûts liés à cet objectif et plus globalement aux politiques environnementales? Nous verrons dans le troisième épisode comment on travaille dans la recherche en sciences sociales sur des questions comme celle-ci, où il demeure de grandes incertitudes. Et on présentera notamment, avec Aurélie Landon, son expérimentation en cours qui utilise un outil de la prospective, les scénarios extrêmes. Cet épisode a été préparé et pensé par Aurélie Landon et Guillaume Lacroix. Il a été organisé par Rima Hachi et François Follier du programme eCity. Il a été produit avec l'appui technique du Centre d'ingénierie et de développement pédagogique de l'Université Paris-Est Créteil.
Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire.
Une coproduction du programme de recherche eCity et de la chaire Aménager le Grand Paris, qui donne la parole aux chercheurs, étudiants, experts et militants.